Nancy Ypsilantis
et Cécile Guérin. Bonjour et bienvenue dans l'album du Japon illustré. Un Japon tel qu'il se présentait au Neuchâtelois Aimé Humbert, diplomate à qui l'on doit la signature du premier traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le Japon. Nous étions en 1864. 150 ans après ce premier regard, le MEN, le musée d'ethnographie de Neuchâtel, présente Imagine Japan avec des gravures, dessins, photographies ramenées par ce diplomate suisse et qui figure dans son Japon illustré. Avec nous pour poser un regard occidental sur ce Japon, Pierre Souiri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire japonaise à l'université de Genève, vous êtes en duplex depuis Genève. Alors on parle d'imaginaire lorsqu'on parle de ce Japon découvert par Aimé Humbert il y a 150 ans, mais cet imaginaire perdure.
Ah oui, depuis 150 ans et même depuis plus longtemps encore, nous vivons sur un certain nombre de stéréotypes concernant ce pays. Ces stéréotypes ont été forgés soit au XVIe siècle par les Portugais, soit au XIXe siècle par des voyageurs occidentaux comme Aimé Humbert. Et souvent, on peut constater que ces stéréotypes perdurent jusqu'à aujourd'hui, malgré les travaux nombreux des chercheurs qui cherchent
comme vous,
qui cherchent un petit peu à mettre en perspective les choses.
Et quel est le stéréotype qui vous frappe le plus et qui est récurrent ?
Oh, il y en a plusieurs. D'abord, il y a ceux qui, enfin, je veux dire, le Japon produit des, comment dire ? Le Japon produit rarement de la neutralité dans les jugements. Ce sont toujours des jugements excessifs. Soit le Japon est épouvantable, soit le Japon est au contraire merveilleux. Et ces stéréotypes, par exemple, du Japon noir, du Japon despotique, du Japon cruel, du Japon sanguinaire, sont en place dès le début du XVIIe siècle. Ce sont en fait l'Église catholique qui a été chassée du Japon au début du XVIIe siècle qui les a mis en place. Puis inversement, vous avez des stéréotypes du Japon gentil, aimable, une vision rose du pays qui elle aussi est assez ancienne. Elle était particulièrement prisée par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, qui trouvaient formidable ce pays qui avait expulsé le christianisme. Donc, voyez, c'est très ancien.
Et pour vous, Pierre Souiri, oui, qui êtes un des rares historiens du Japon occidental, est-ce que c'est difficile de faire tomber ces mythes ou ces roses et noirs?
Bah oui, c'est assez difficile en fait, parce que nous avons dans nos esprits des schémas qui sont très très fortement imprégnés. Vous avez aussi cette idée un petit peu bébête qu'on trouve un peu partout, que le Japon est une terre des contrastes. Mais je l'entendais dire l'autre jour à propos du Brésil. Donc vous voyez, ce sont des stéréotypes là aussi. Japon entre tradition et modernité. Une fois qu'on a dit ça, on a l'impression d'être très intelligent. Mais voilà, ce sont des choses qui méritent d'être déconstruites. Et ça, c'est mon boulot.
Le Japon et le Brésil qui partagent ce double regard, soit tout noir, soit tout rose. Voilà. Cécile Guérin, vous êtes rendu au MEN, au musée d'ethnographie de Neuchâtel, il y a quelque temps, en pleine préparation de cette exposition Imagine Japan. Drôle de titre en anglais.
Hein. Imagine Japan, parce que comme il y a les 150 ans de la signature du traité, il faut que le titre soit compris aussi par les Japonais qui vont venir en Suisse. Enfin, vous voyez, c'est toute une histoire d'amitié qu'on construit, qu'on continue à construire. Imagine Japan. Et en l'occurrence, là, les conservateurs adjoints, Grégoire Mayer et Julien Gloser, étaient affairés autour de l'énorme fond iconographique qui a été légué au MEN, des images collectées par le diplomate neuchâtelois Aimé Humbert dès l'été 1863. Et ce, pendant 9 mois, je vous propose de le rencontrer.
Alors, Aimé Humbert est un politicien radical neuchâtelois, une figure assez importante de l'histoire neuchâteloise, puisqu'il fait partie du premier gouvernement en 1848. C'est un radical, un protestant convaincu, qui croit au progrès, qui croit à la suprématie de l'Occident sur le reste de la planète, et qui, à la fin des années 50, alors qu'il est au Conseil des États encore, devient président de l'Union horlogère suisse et décide d'ouvrir avec cet organisme un comptoir à Singapour. Ça se fait pas, et il décide de continuer ses explorations pour trouver des débouchés pour les montres suisses sur le Japon.
Donc il va vendre des montres suisses au Japon. C'est ça l'objectif de sa mission au départ.
Alors ça part de cela, mais en fait il démissionne lorsqu'il est nommé ministre plénipotentiaire de la Suisse. Il démissionne de son poste de président de l'Union horlogère. Il est intéressé par l'aspect diplomatique des choses et notamment la possibilité de signer ce traité. Le Japon est ouvert depuis très peu de temps aux Occidentaux, après que les Américains aient forcé le blocus en 1853-1854. Les portes s'ouvrent. La Suisse est le septième pays à signer un traité avec le Japon. Traités qui sont considérés actuellement, enfin qui sont considérés par les historiens comme des traités inégaux, parce qu'effectivement ils ont été un peu amenés de force.
D'accord. Est-ce qu'on peut voir qui était ce Aimé Humbert?
Alors là, c'est une peinture de 1842, donc il est extrêmement jeune, c'est avant même sa carrière politique. Il est alors instituteur à Morges. C'est quelqu'un qui a des intérêts assez multiples, hein, et puisque la politique va quand même l'occuper une grande partie de sa vie, mais à la suite de son voyage au Japon, il va être recteur de l'Académie de Neuchâtel. Donc il reste extrêmement intéressé par la question de l'enseignement, de la transmission, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ouvrage qu'il va publier à la suite de son voyage au Japon, qui s'appelle « Le Japon illustré », qui sort en 2 volumes en 1870 chez Hachette, justement, illustré avec près de 500 gravures, donc c'est un travail énorme. Et les illustrations et tout ce qu'il va donner comme illustration pour cet ouvrage, il les a rassemblées dans un corpus absolument phénoménal, puisqu'il a rassemblé près de 3600 pièces iconographiques, de gravures, d'estampes, de pages de livres, de photographies. Le musée d'ethnographie a reçu en 1950, de la part du fils d'Aimé Humbert, à peu près 2/3 du fonds iconographique qui a servi pour comme documentation pour le Japon illustré. Si bien que, à partir de cela, effectivement, en plongeant dans ce fond, en découvrant ce fond, qui est d'une fraîcheur absolument fantastique, les pièces sont magnifiques. Alors, il y a des pièces très, très populaires. Il y a vraiment une documentation qui est tirée vraiment des ouvrages très populaires au Japon, mais également des photographies, quelques photographies, mais également aussi des œuvres d'un peintre inconnu, un ou deux peintres inconnus, qui documentent extrêmement bien la vie des artisans, la vie des musiciens de rue, la vie d'un peu de tous les jours. Alors il y a une volonté assez encyclopédique, comme souvent à l'époque, il veut donner tout ce qu'il peut donner, tout ce qu'il peut rassembler en peu de temps, pour parler du Japon. Son ouvrage est construit beaucoup sur des descriptions de ce qu'il a pu vivre et voir, mais également comprend une grande partie consacrée à l'histoire du Japon, de ce qu'on pouvait connaître de l'histoire du Japon à l'époque. Donc il y a une partie assez double comme ça. L'intelligence qu'il a eue, c'était de rassembler ces documents iconographiques et de travailler à partir de ça. Un des problèmes, c'est qu'il puise dans de l'image qui est déjà construite. Donc évidemment, il y a un double effet comme ça de distance, puisque les images, notamment des vues de Tokyo par exemple, vues d'Edo, qui étaient très populaires à l'époque, sont déjà des choses qui sont des clichés ou des stéréotypes.
Il prend le regard, on pourrait dire, du Japon, du japonais, de l'artiste japonais, pour essayer de comprendre ce Japon mystérieux.
Il le dit d'ailleurs au début de son ouvrage. Avec cette collection, on pourrait évoquer un ouvrage qui serait « Les Japonais peints par eux-mêmes ».
Quelques mois, il va collectionner toutes ces gravures. C'est énorme comme travail. Il est fasciné. Qu'est-ce qu'il a comme regard sur... Parce qu'il va tous azimuts, il va...
Alors, il rassemble effectivement de manière extrêmement large. Donc, ses intérêts sont multiples. On sent quand même que certains éléments sont plus documentés que d'autres. Il a un regard quand même... assez dur, notamment sur le monde religieux et sur le clergé bouddhiste. Il écrit à sa femme, il dit, mais tu vois, j'ai collecté tous ces dessins avec toutes ces diableries et toutes ces monstres et tous ces...
Ça va
te choquer. Oui, alors il peut utiliser tous les termes dépréciatifs à l'égard du bouddhisme, notamment. Il est très, très virulent. Mais il en fait une belle collection. On a des très belles pièces, du coup, aussi de ce domaine-là. Il est intéressé par l'enfance. Il a une très belle collection sur les enfants, avec les jeux d'enfants, notamment. Et on a beaucoup de pièces de ces dessinateurs inconnus qui font une sélection de jeux d'enfants, de la balançoire, les roulades, les culbutes. Enfin, c'est vraiment une très belle série, par exemple. Il s'intéresse à la politique. Donc, il va évidemment aussi collectionner des images qui évoquent le monde politique, les cortèges de seigneurs, mais qui sont extrêmement populaires, extrêmement fréquentes dans l'iconographie japonaise de l'époque. Donc ça, il ramasse. Par contre, c'est pas du tout un amateur d'estampes érotiques. Donc il n'a aucune estampe de ce type-là dans le fond, sans que
ça l'a pas intéressé.
Non, il est extrêmement réticent. Il a un jugement très dur aussi sur ce type de dessin-là. Il est très remonté contre la prostitution. Il sera ensuite, quand il reviendra ensuite, président de la première ligue contre la prostitution en Suisse. Donc il est vraiment très. On sent que ça oriente sa sélection aussi.
Est-ce qu'il y a des choses qui le surprennent d'emblée, peut-être dans les lettres à sa femme? On peut imaginer qu'il y a ses premières surprises.
Il est très touché par, notamment à Tokyo, enfin Edo à l'époque, Tokyo actuel, il est très touché par la ville, le monde. C'est une immense ville pour lui. Il est décrit de manière assez, assez chaleureuse toute la vie quotidienne, la vie de la rue, les cris des vendeurs et tout ça. Il a une fascination pour cela et pour la rue et comment ça se passe dans la rue. Il est très admiratif d'une certaine manière de cette fermeture, de cette fait que les gens soient très fiers d'eux-mêmes. Enfin, ça, il a quelque chose, c'est peut-être un peu le petit Suisse en déplacement qui se dit on est les petits contre les grands. Enfin, il y a quelque chose quand même comme ça qui le fait admirer. Il est très admiratif de la nature, qu'il compare évidemment, alors comme souvent dans les récits de voyageurs, aux Alpes, enfin ou au paysage qu'il connaît. Donc il utilise ses propres références culturelles pour construire son discours et pour construire son regard.
Ouais, hein. Et est-ce qu'il est admiratif aussi, vous disiez, donc de l'organisation aussi, même aussi en regard avec l'organisation suisse?
L'organisation du système social lui paraît extrêmement, extrêmement intéressante, sauf le système politique qui pense décadent et administratif. Oui.
Tellement beau là, vous arrivez juste à me soulever là. Une scène d'enterrement, décidément.
Il l'utilise en fait, là on se rend très bien compte avec ce type de dessin coloré. Il le décrit extrêmement précisément l'enterrement dans son ouvrage, ce qui a toujours étonné les chercheurs parce qu'on sait bien qu'il n'aurait pas pu assister à une scène d'enterrement. Donc il a certainement tiré ses informations de cette suite d'images.
Donc sur la première image, totalement à droite, on voit deux femmes qui entourent, on imagine, le défunt sur un tatami, avec les hommes qui sont un peu excentrés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe là?
Alors là, on remet de l'argent au mendiant à la mort de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un de la famille qui fait un don au mendiant.
Ensuite, on voit des personnes qui mettent le cadavre dans ce fameux...
tonneau.
C'est un tonneau, ouais. On est en train de mettre le cadavre...
Il a été lavé, les ablutions ont été faites, rasées, et puis ensuite il est mis effectivement dans un tonneau. Ensuite, il sort de la maison ici en cortège. On a le cortège funéraire qui poursuit. Là, une scène au temple, la scène de l'incinération, et puis ensuite les cendres qui sont remises et qui sont enterrées.
Extrêmement bien documenté. Je me dis que même à l'époque, on décrivait pas les enterrements ici, on n'avait pas autant d'infos.
Effectivement, sur cette série, c'est extrêmement bien documenté. On soupçonne que ces dessins étaient faits à l'usage des étrangers ou pour les étrangers parce que on le trouve dans une ou deux autres collections européennes, mais c'est une collection extrêmement rare. Certainement que la censure du gouvernement avait dû donner son aval pour pouvoir produire ces dessins et les sortir. Donc, on a deux, trois séries comme ça dans le fond. Il y a un livre qui est autour de 1865, qui est sorti d'un anglais, dans lequel on voit quelques-unes de ces images, ou des images approchantes, parce qu'on sent que les images étaient très stéréotypées. Il y a vraiment des mêmes types d'images. Les couleurs sont très fraîches, là, elles sont magnifiques. Enfin, ça fera une très belle découverte pour le visiteur.
Oui, parce qu'on a l'impression, quelque part, que ce sont des dessins qui ont été faits avant-hier.
Exactement. Et c'est ça qui nous a tous touchés ici au musée, quand on découvre ce fond, c'est d'être confronté à quelque chose d'extrêmement frais, qui a été extrêmement peu montré, puisque le fond est arrivé au musée en 1950. Et manifestement, avant, il a voyagé, il était racheté, deux, trois. Mais il n'a pas dû être montré, ouvert ou très peu ouvert.
Ces images ont 150 ans.
Ces images ont 150 ans. On pense qu'elles ont été faites entre 1858 et 1863-64.
Là, vous les reprotégez avec du papier de soie.
Petite interruption. Inattendu, parce que normalement un ordinateur, c'est pas comme une machine qui s'arrête.
Le Japon illustré, c'est l'ouvrage qui est sorti combien de temps après le voyage d'Aimé Humbert au Japon?
Alors 6 ans après, puisqu'il sort en 1870, mais il le rédige assez rapidement après son retour. Il commence assez rapidement. Il a un contrat avec Hachette, avec d'abord cette idée de prépublier dans le Tour du Monde certains épisodes, et ensuite tout doit être assemblé dans un ouvrage. Le plan est déjà établi assez rapidement avec Hachette dès que le contrat est signé.
Alors on l'ouvre, cet ouvrage. Là, Grégoire Maillard, vous êtes arrêté sur une gravure d'une école japonaise.
Oui, alors c'est un... Puisqu'on a regardé tout à l'heure, on a lu sur des pièces d'Humbert ces indications qu'il donnait pour le graveur, avec un enfant qui pourrait être situé dans la pièce de l'école, et on va le retrouver ici dans une composition alors tout à fait fantaisiste de la part des dessinateurs parisiens qui vont travailler pour le Japon illustré. On a un maître au milieu et puis plein d'élèves comme ça, alors qui sont tirés d'ici d'un livre de 1740, ici d'un de ces dessins du peintre inconnu, ici de la manga d'Okuzai. Donc il y a vraiment une composition complètement fantaisiste de la part des graveurs. On a notamment, on aime bien ce petit garçon qui se tient la cheville ici, comme s'il était un peu gêné devant son maître d'école. Il se tient le pied comme ça en l'air, et il a l'air d'être à cloche-pied. Et là, manifestement, c'est le graveur qui s'est trompé ou qui a fait un peu d'humour, puisque Humbert, sur le dessin, indiquait un personnage à côté en disant « pour être dans la scène du maître d'école », c'est un enfant qui était assis. Et puis celui qui saute à cloche-pied n'était pas du tout indiqué par Humbert, mais on le retrouve ici dans l'image.
Donc finalement, ce Japon illustré, il est illustré par des images qui sont fabriquées. Enfin, il y a quelque chose de la fabrication d'une certaine imagerie du Japon.
Bien sûr. On est vraiment dans une composition, mais ce qui est fascinant, c'est qu'elles partent d'images qui sont pour la grande majorité, des images faites par des dessinateurs japonais. Et il y a juste des changements de perspective, des changements d'angle, la dramatisation, des changements de traits de visage qui doivent correspondre plus peut-être à l'esthétique auquel le public occidental était habitué. C'est notamment souvent le cas de la perspective ou du point de vue. Souvent, les perspectives dans des gravures japonaises sont dites à vol d'oiseau. Et puis là, elles sont plutôt vues d'un personnage au sol.
Merci à Grégoire Maillard, conservateur adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Pierre Souhiri, je rappelle, vous êtes historien du Japon à l'université de Genève. Cette musique me fait penser, il y a cette perception des Occidentaux, des Français, Hollandais, Suisses, Anglais, du Japon, mais il y a aussi l'image que les Japonais se font de ces Occidentaux. Quelle était-elle?
Vous voulez dire à l'époque de Humbert?
Il y a 150 ans.
Il y a 150 ans. Ce sont des barbares. Enfin, nous sommes des barbares aux yeux des Japonais. Nous ne connaissons pas la poésie chinoise. Nous ne sommes pas au fait de la philosophie de Confucius. Nous sommes des gens dangereux, parce que les Occidentaux sont puissants, sont militairement armés. Ils ont vaincu la Chine une dizaine d'années plus tôt, lors de la fameuse guerre de l'opium. En tout cas, les Anglais ont vaincu la Chine.
et il s'apprête à faire la guerre au Japon pour le coloniser ou le dépecer ou l'envahir. Donc il y a une forme de tension qui est très forte, notamment parmi les samouraïs japonais, au moment où les Occidentaux arrivent. Je vous rappelle que l'amiral Perry donc, arrive au Japon en 1853, revient en 1854, et que dans la foulée, les Américains signent un premier traité de paix avec les Japonais, suivi de traités de commerce qu'on qualifiera de traités inégaux à partir de 1858, et le traité signé avec la Suisse en 1864 en est un. Donc on est quand même dans une période de tension assez forte, et un certain nombre d'ailleurs d'Occidentaux le perron de leur vie, puisque un certain nombre d'entre eux sont sabrés, tout simplement, par des samouraïs japonais lors d'incidents divers qui se produisent et qui d'ailleurs déclenchent à chaque fois des représailles de la part des Occidentaux. On est vraiment dans une période où on est aux limites, entre une forte tension aux limites de la guerre.
De l'autre côté, les Occidentaux, eux, aussi, entre fascination, comprennent parfois des choses qui les fascinent, l'organisation sociale, etc. Et l'incompréhension, on l'entend avec Aimé Humbert, autour de la religion ou la politique.
Oui, alors en ce qui concerne la religion, la chose est ancienne, puisque les premiers Portugais et les missionnaires, en particulier les missionnaires jésuites qui sont arrivés au Japon au XVIe siècle, ont tout de suite fait un compte-rendu de la religion japonaise épouvantable, pour d'ailleurs expliquer que les Japonais étaient par ailleurs mûrs pour le christianisme. Donc ça, la critique du bouddhisme, en tout cas de la religion japonaise, est assez répandue parmi les milieux occidentaux, qu'ils soient catholiques ou protestants. Alors pour ce qui est du système politique, l'idée générale qui prévaut aux alentours de 1850 en ce qui concerne le Japon, c'est que c'est une société féodale. Marx d'ailleurs, qui écrit Le Capital un peu plus tard, au début des années 60, je crois, écrit quelque part dans son ouvrage que le Japon, pour comprendre ce que c'est que la féodalité, il y a qu'à aller regarder ce qui se passe au Japon aujourd'hui. Donc c'est une idée assez commune à cette époque-là. Le Japon est donc organisé avec des seigneurs qui détiennent des fiefs, et tout ça fait penser à la société d'Occident d'autrefois.
Donc le Japon n'est pas sorti du Moyen-Âge pour les Occidentaux ?
Le Japon n'est pas tout à fait sorti du Moyen-Âge. C'est une société qui est un petit peu endormie, qui ne réalise pas ce qu'est devenu le monde moderne, et qui refuse de comprendre qu'elle doit s'ouvrir. Donc c'est un petit peu ça le leitmotiv qu'on retrouve. Mais en même temps, le Japon possède des qualités que peut-être d'autres pays n'ont pas, en particulier des qualités d'organisation d'une manière générale qui frappent les Occidentaux. Une société extrêmement hiérarchisée qui semble fonctionner relativement bien, malgré la stagnation, enfin ce qui est perçu par les Occidentaux d'ailleurs à juste titre comme une stagnation.
Vous êtes spécialiste de la période du Moyen-Âge, c'est un professeur japonais qui a allumé cette passion en vous enseignant le japonais moyenâgeux. On a tous des images de cette période, et là encore on est à côté de la plaque.
Alors d'abord, pour ce qui est du Moyen-Âge japonais, on ne parle pas de la même période. Le Moyen-Âge japonais, c'est la période qui va du XIIe au XVIe siècle, donc avant l'arrivée des premiers occidentaux au Japon. Mais la société féodale japonaise émerge probablement aux alentours du Xe siècle, avec l'émergence des premiers guerriers, des premiers samouraïs, mais se perpétue jusqu'au XIXe siècle. Alors, entre le XVIe et le XIXe siècle, il y a une période qu'on appelle la période d'Edo, ou la période des shoguns Tokugawa, qui est une période qui a souvent été qualifiée de pré-moderne, au sens où il y avait, vous savez, les temps modernes qui précédaient l'époque contemporaine. Donc on est dans une période qui est en fait une période où le Japon a pour caractéristique, par rapport à la période précédente, donc par rapport au Moyen-Âge, le Japon a pour caractéristique d'être un pays en paix. Et la période Tokugawa, donc qui va se terminer justement avec l'arrivée des Occidentaux, l'arrivée des gens comme Aimé Humbert, est une période donc de féodale avec des seigneurs féodaux, mais une période qui vit en paix depuis 2 siècles et demi. Et c'est finalement l'arrivée des Occidentaux qui va raviver en quelque sorte les conflits sociaux à l'intérieur du pays et bien sûr les tensions avec l'étranger.
Est-ce que nous, notre image de ce Moyen-Âge japonais, par la littérature ou certains films, etc., était juste ou alors elle était à côté de la plaque?
Oh ben... Est-ce que vous croyez qu'on a une vision juste de notre Moyen-Âge occidental en regardant les films comme Robin des Bois? Je ne pense pas. Donc, bien entendu que cette vision est largement fausse, mais en même temps, elle nous donne une idée de ce que fut cette société. D'ailleurs, si je peux me permettre, les Japonais ont surtout mis en scène non pas le Moyen-Âge, mais la période d'Edo. Mmh. Donc, cette période qui va du XVIIe au XIXe siècle. Et les films, notamment les films de Kurosawa, de Mizoguchi et de quelques autres qui décrivent cette période, sont plutôt assez près de la réalité telle qu'on peut se la représenter maintenant à travers les historiens, enfin à travers les textes de l'époque qui ont été analysés par les historiens. Elle n'est pas si fausse que ça en réalité. Ce qui ne va pas, c'est les périodes plus anciennes. Enfin bon, on retrouve un petit peu la même chose chez nous, ça c'est pas vraiment original.
Musique d'aujourd'hui avec un contrebassiste suisse, Michel Benita, et un contrebassiste français, et une chanteuse japonaise, Miyako Miyazaki, mais qui chante en anglais, comme c'est bizarre.
Trouble and I turn away.
étrange musique, Someday. Que pensez-vous de cette musique, cher invité?
Je viens de découvrir, je ne connaissais pas du tout. Elle chante en japonais. Hein, elle chante
oui,
en...
ça a commencé en anglais.
Oui, oui,
et
il y a quelques mots en anglais,
oui.
Puis après ça chante en... elle chante en japonais.
Oui.
Oui. Bah non, mais c'est assez... ce genre de... de musique se retrouve aussi bien chez nous que là-bas. Il n'y a pas de particularité japonaise à aller chercher derrière ça.
Non, non, mais elle véhicule aussi forcément des images. La musique, on pense à Ryushi Sakamoto, enfin, des musiciens qui, eux aussi, ont porté tout un imaginaire dans leur musique. On va poursuivre dans cet imaginaire avec un retour au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Toujours à propos de cette collection du diplomate neuchâtelois Aimé Humbert, Cécile.
Oui. Et parmi les pièces iconographiques, il y a beaucoup de photographies que vous pourrez voir à partir du 20 juin. Certains proviennent du Suisse Pierre Rossier, qui a été envoyé au Japon en 1859. Figurez-vous qu'il était fribourgeois. Et puis, il y a les photos très connues, hyper connues, hyper du photographe italien Felice Beato. Explication de Philippe Dallet, ethnologue et spécialiste du Japon à l'Université de Zurich.
Alors, à l'arrivée de Humbert, il y a déjà un studio de photographie japonais, mais le hasard veut que le grand photographe qui lance en fait la photo de Yokohama, qui est un professionnel très aguerri et qui est photographe de guerre entre autres, qui s'appelle Felice Beato, débarque de Chine au mois de mai, vers fin mai on pense, 1863. Et Beato commence à prendre des photos immédiatement, puisque c'est un professionnel, dans des grands formats, avec des grandes plaques. Et il prend des jardins.
C'est lui, là, qui fait ce jardin bourgeois, qui est appelé jardin bourgeois.
On pense que, voilà, c'est une photo qui est attribuée à Beato. Et donc, il profite de prendre des photographies dans les jardins des temples où sont installées les légations étrangères.
Mais là, ce qui est étonnant, c'est que cette photo, pareil, ça pourrait être maintenant. On a les mêmes arbres ciselés, la petite lanterne en bois, des lotus, etc. C'est maintenant, ça, on pourrait prendre la même.
C'est très contemporain. Il ne faut pas oublier que, en tout cas, les premiers jardins, on suppose qu'ils datent du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc, on sent presque les coups de ciseaux dans les arbres s'étaillés. Les ponts, les formes des ponts, les arrangements.
Les roches.
L'installation des pierres, les temps, on voit juste pas les carpes. Hein. Et en fait, Beato met en place, codifie, il prend beaucoup de portraits en plein pied d'artisans. Parfois, heureusement, on a quelques témoignages où Humbert et Beato, parce que Beato suit Humbert quelques fois en tant que diplomate, et on a des épisodes où Beato arrive à tromper la vigilance des gardes qui, en fait, sont très, très nerveux lorsque les gens se baladent proches des grands palais des shoguns. Et ces palais sont gardés naturellement par des samouraïs et ce sont des points sensibles.
C'est une perception particulière du Japon quand même, par la photo, par l'image.
On le voit très bien, Humbert, les premières gravures qu'il fait faire pour illustrer son livre, il se base sur la photographie. Hein, c'est le document le plus frais, qui pour lui quand même est le plus vivant. Donc il va privilégier d'abord les photographies, puis ensuite, comme il en a pas assez, il n'arrive pas à couvrir tous les sujets, il va se référer au corpus d'images qu'il a rassemblé. On est avec cette collection de photographies avant, on dira que Beato n'a pas encore commercialisé ces images à fond, il les prend, il se fait un stock et on voit que vers 1866, bon, Beato a un grand problème puisque son atelier brûle en 1866, donc 2 ans après le départ de Humbert, et que peut-être juste avant que l'atelier brûle, on voit que Beato commence à faire des albums. Il pense à rassembler ces images qu'il a prises, notamment pendant que Humbert était là, et pour les réunir en album et ainsi les vendre. Et c'est ainsi que commence le grand commerce de la photographie de Yokohama, qu'on appelle Yokohama Shashin.
Merci à Philippe Dallet, ethnologue et spécialiste du Japon à l'université de Zurich, autre spécialiste à l'université de Genève, cette fois Pierre Souhiri. Alors, ces images prises par les étrangers, est-ce qu'elles sont contrôlées par le pouvoir en place? Est-ce que le pouvoir essaie de maîtriser son image?
Oh, il n'en a pas les moyens.
Il n'en a pas les moyens. À cette époque-là, il ne faut pas s'imaginer que le Japon est un pays totalitaire. Le Japon est dirigé par ce gouvernement donc shogunal, qui bien sûr dispose d'une police, mais elle est très, très limitée. En fait, les étrangers sont assez facilement contrôlables parce qu'ils sont contraints de résider dans ce qu'on appelle des concessions. Donc à l'intérieur des concessions, la police est faite par les Occidentaux eux-mêmes. Donc à l'intérieur de la concession, il n'y a pas de garde japonais. Mais dès que les Occidentaux sortent de la concession, d'abord il leur faut une autorisation, et ensuite ils sont accompagnés par des samouraïs. Mais la photographie ne paraît pas à ce moment-là quelque chose de suffisamment subversif pour qu'on contrôle. Et lorsque des photographes s'arrêtent pour prendre une photo d'un paysage ou d'un bâtiment, ou d'une scène de rue, il n'y a pas de contrôle particulier. C'est pas la Corée du Nord d'aujourd'hui, quand même.
On l'a dit, ces traités commerciaux vont être signés, mais quelle était la teneur? Est-ce que c'était du colonialisme déguisé, Pierre Souhiri?
Alors ça, c'est une question tout à fait sérieuse, parce que ça a obnubilé, on peut dire, la conscience des diplomates japonais, mais aussi des Chinois et des autres, pendant toute la seconde moitié du 19e siècle, et même jusqu'au début du 20e. Alors, les traités, c'est la Grande-Bretagne qui a, pour la première, obligé la Chine à signer un traité de ce type-là. Ces traités stipulent plusieurs choses. La première, c'est que le pays donc signataire, vaincu, donc la Chine dans le cas de l'Angleterre, ou bien le Japon, ça c'est les États-Unis qui le font signer, renonce à ses droits de douane, c'est-à-dire qu'il ne peut percevoir des droits de douane qu'avec l'accord des étrangers. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une perte du pouvoir régalien. La seconde, c'est que désormais, les Occidentaux obtiendront donc des bouts de terre, en quelque sorte. Alors, c'est Hong Kong dans le cas de la Chine, c'est Yokohama, Nagasaki et quelques autres au Japon, qu'on va appeler des concessions, et qui sont donc gérées par les Occidentaux avec une police occidentale. Et normalement, les autorités japonaises n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur de la concession. Donc, il y a une sorte de perte, en quelque sorte, de pouvoir sur une partie, même minime, du territoire. La seconde, c'est troisième plutôt, c'est que les étrangers qui commettraient des actes délictueux sur le territoire japonais ne peuvent pas être jugés par des juges japonais ou en Chine par des juges chinois, mais ils doivent être transférés devant les autorités consulaires de leur propre pays, qui les jugera en conséquence, et qui évidemment est souvent extrêmement une justice très partielle. Très partielle. Mais et puis la dernière chose, c'est que ces traités sont signés sans date de fin du traité, c'est-à-dire ils sont signés pour l'éternité en quelque sorte. Et donc l'obsession des diplomates japonais en particulier, ça va être de renégocier ces traités inégaux de façon à ce que le Japon récupère l'entièreté de ses droits régaliens sur son propre territoire. Et évidemment, ce sont des traités qui ne sont pas des traités coloniaux, en ce sens qu'il n'y a pas une volonté de coloniser le Japon de la part des Occidentaux, mais il y a une volonté de traiter le Japon comme une puissance secondaire, comme on avait l'habitude de le faire à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait les pays occidentaux puis les autres. Et donc le Japon, faisant étant d'un pays considéré du moins du point de vue des Occidentaux comme semi-barbare, il ne pouvait pas être considéré sur un pied d'égalité par les Occidentaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait signer ces traités et que les Japonais ont cherché par tous les moyens à les abolir, ce qu'ils parviendront à faire dans les dernières années du 19e et au début du 20e siècle.
Donc finalement, le Japon ne sera pas colonisé, mais par contre, cet esprit nationaliste japonais va s'exacerber et le Japon va partir à la conquête de ses voisins.
Alors, si vous voulez, la conséquence directe en ce qui concerne le Japon de cette affaire-là, de cette affaire des traités, c'est que le Japon, qui ne se sentait pas nécessairement une nation jusqu'alors, va se heurter à la question de l'altérité, et d'une altérité menaçante, et donc réagir. Et la plupart des samouraïs, c'est-à-dire des guerriers, ou si vous voulez, si vous préférez, les guerriers, c'est une sorte de classe moyenne hein, au Japon, vont se dresser contre cette injustice et développer un mouvement qu'on appellera le mouvement xénophobe, qui va donc lutter contre la présence des étrangers au Japon. Mais pour lutter contre la présence des étrangers au Japon, ils comprennent assez vite que s'ils n'acquièrent pas eux-mêmes les techniques, et notamment les techniques militaires occidentales, ils n'y arriveront pas. Donc dans un premier temps, ils font en quelque sorte ami-ami avec les Occidentaux, si on peut dire, mais dans le but ultime de les mettre à la porte le jour venu. Alors ça c'est la première phase en quelque sorte. Ça c'est un nationalisme qui émerge, donc on peut dire comme ça les choses comme ça, qui est un nationalisme de défense en quelque sorte. Et puis alors à partir de la fin du 19e siècle, des premières années du 20e siècle, les choses changent parce que le Japon devient une puissance industrielle et militaire de plus en plus imposante, et que pour se faire entendre dans le concert des nations tel qu'on imaginait les relations internationales à l'époque, il faut soi-même entretenir des forces armées et être agressif. C'est la meilleure manière de se faire respecter à une table de négociation. Et les Japonais comprennent ça assez vite. C'est la raison pour laquelle ils cherchent à expulser la Chine de Corée en 1894-95, et ils y arrivent d'ailleurs, et ensuite ils cherchent à expulser la Russie de l'Asie du Nord-Est, ce qu'ils réussissent à faire en 1904-1905. Et donc, à partir de ce moment-là, le Japon est compris par les Occidentaux comme une grande puissance régionale et à ce titre relativement respectée, ce qui change complètement son statut, en quelque sorte, dans les yeux des Occidentaux. Car c'est cela qui humilie le plus les Japonais, d'une certaine façon, c'est de ne pas être pris au sérieux par les Occidentaux.
Donc là, vu qu'ils sont devenus une nation agressive et expansionniste, ils sont pris au sérieux.
Voilà.
Est-ce qu'à l'intérieur du Japon, les Japonais eux-mêmes soutiennent ce mouvement ?
Alors, il y a ceux qui le soutiennent et puis ceux qui le soutiennent moins bien. Il y a un critique d'art qui s'appelait Okakura Tenshin qui dit à peu près la chose suivante. Les Occidentaux nous ont toujours considérés comme des barbares quand nous nous occupions que des arts aimables de la paix, et en particulier la cérémonie du thé, l'art des fleurs, ce genre de choses. Ils nous considéraient comme des barbares. Et puis maintenant qu'on massacre en grand dans les champs de bataille de Mandchourie, alors ils nous considèrent comme des civilisés. C'est terrible, non ? C'est terrible. Alors, c'est un petit peu le point de vue. Alors, évidemment, certains vibrent aux exploits de l'armée japonaise. Il y a un courant nationaliste, ou même chauvin, qui se développe au Japon, mais c'est vrai aussi dans tous les pays occidentaux de la même époque. Et puis, il y a une opposition. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas correct de se comporter comme ça. D'abord, parce qu'on fait comme les Occidentaux. Et la morale devrait nous, qui enseigne l'harmonie, ne devrait pas nous pousser à nous conduire comme des Occidentaux. Y en a un qui dit, il s'appelle Miyazaki Totin, tout à fait au début du 20e siècle, il explique que le monde des Occidentaux est un monde de sauvages, mais le problème c'est que le Japon est en train de se comporter comme les autres sauvages. Donc on a une critique qui se développe de cette agressivité ou de ce nationalisme. Alors cette critique est évidemment minoritaire dans le pays, mais elle est tout à fait réelle. Il y a un vrai, véritable mouvement anti-guerre qui se développe, par exemple, en 1903-1904, lorsque les Japonais s'apprêtent à faire la guerre contre la Russie. Ou plus tard, lorsque le Japon colonise de façon... La Taïwan et la Corée et se comportent de façon assez brutale en Corée, il y a des intellectuels qui écrivent dans la presse que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que c'est complètement suicidaire de se comporter comme ça, qu'on va faire qu'attiser le ressentiment des Coréens, voire la haine des Coréens pour les Japonais, et que c'est pas comme ça du tout qu'il faut s'y prendre. Donc il y a toute une critique qui se développe sur des bases à la fois morales, mais aussi parfois sur des bases économiques, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent que les colonies, ça coûte cher, ça rapporte rien, et qu'on ferait mieux d'industrialiser le pays. Alors il y a une sorte d'idéologie qui se répand à cette époque-là, c'est l'idéologie du grand Japon. Le Japon ne peut exister qu'à partir du moment où il est puissant et il domine les régions alentours, notamment la Corée, la Mandchourie, voire la Chine. Et puis il y en a d'autres qui prônent le petit Japon, et c'est-à-dire un Japon qui serait neutre, qui serait non agressif et qui serait un modèle aux yeux du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont désarmé le Japon puis l'ont rendu indépendant en 1952, le Japon s'est développé sur le plan économique sans pour autant devenir une grande puissance impérialiste. Et d'une certaine façon, le petit Japon, d'une certaine façon, a montré qu'il était plus puissant que le grand Japon. Et d'une certaine façon, ça explique aujourd'hui, si on regarde un petit peu les tensions qui existent aujourd'hui entre le Japon et la Chine, justement, ça explique le débat qui se produit au Japon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un débat entre les partisans du grand Japon, si je puis dire, c'est-à-dire l'actuel Premier ministre qui veut revenir sur la constitution pacifiste du Japon et se donner les moyens de faire la guerre, Et puis les partisans du petit Japon qui disent mais la guerre n'a abouti qu'à la catastrophe, alors qu'au contraire, lorsque nous étions un pays qui se concentrait sur sa puissance économique, on était beaucoup plus respecté par les autres. Et d'une certaine façon, c'est comme ça qu'ils font continuer à faire. Donc il y a un Japon pacifiste, qui est fondamentalement pacifiste, qui s'oppose actuellement à un Japon, enfin en tout cas à des hommes politiques qui cherchent à profiter de la situation de tension avec la Chine pour jeter de l'huile sur le feu et justifier le réarmement du Japon, voire une politique de grande puissance.
Alors, vous parliez de ces voix dissidentes. Alors, à signaler que sous votre direction paraît Japon colonial 1880-1930, où il y a entre autres un témoignage d'un de ces dissidents qui explique comment, par rapport à la Corée, je crois, s'il va collecter des musées, des objets d'ethnographie, enfin, s'il met en avant la culture de ce pays, tout d'un coup, le regard des Japonais sur leur étranger proche va se transformer. Il y a également des voix de femmes assez étonnantes aussi. À un moment donné, le Japon va prendre un essor et devenir un Japon moderne. En 1919, il a son siège à la Société des Nations aux côtés de la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, avec des universités prestigieuses. C'est un endroit qui, dans cet Orient, devient le symbole de la modernité.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la victoire contre la Chine d'abord, puis le Japon, puis la Russie ensuite, puis l'accession du Japon au rang de puissance victorieuse en 1918-19 au traité de Versailles, et le fait qu'il ait un siège à la SDN à Genève, propulse le Japon au premier rang, en quelque sorte. Le Japon est une puissance régionale. C'est pas à proprement parler une puissance internationale encore, mais à part les États-Unis, il n'y en avait pas. La Grande-Bretagne, il n'y en avait pas vraiment. Mais c'est un pays qui attire et qui attire notamment les étudiants qui sont réformistes, hein, qui veulent sortir la Chine ou la Corée de son état de stagnation. Donc ils viennent au Japon pour, en quelque sorte, étudier les méthodes japonaises pour moderniser le pays. Donc, d'une certaine façon, le Japon joue un rôle, pas simplement un rôle de puissance agressive, mais aussi un rôle de modèle.
Est-ce que le Japon veut toujours se démarquer, justement, de la Chine et de la Corée? C'est ça, vous dites, les étudiants chinois, coréens viennent au Japon et le Japon sert de modèle, alors qu'en fait, le Japon, à cette époque-là, voulait surtout ne rien avoir à faire avec ses voisins. Il voulait devenir, enfin, on pourrait le voir comme ça, il voulait devenir occidental.
C'est plus compliqué que ça, parce que non, le Japon ne veut pas devenir occidental. Le Japon, il y a plusieurs courants intellectuels qui traversent la société japonaise, et l'un de ceux-là s'appelle l'asiatisme, c'est-à-dire que les Asiatiques, donc les jaunes si vous préférez, en tout cas les Chinois, les Coréens, les Japonais, doivent s'allier au lieu de se taper dessus, il doit s'allier parce que l'ennemi principal, c'est l'impérialisme blanc. Donc ce type de discours est un discours qui est très, très à la mode et très entendu, non seulement dans le Japon des premières années du XXe siècle, mais aussi en Chine et en Corée. Et d'une certaine façon, une partie de l'élite coréenne, par exemple, accepte la colonisation japonaise au nom de l'asiatisme. C'est-à-dire ils se disent que pour tenir le coup face aux Blancs, il vaut mieux être avec les Japonais. Donc vous voyez, c'est un discours extrêmement pervers qui va d'ailleurs aboutir à avoir des conséquences tout à fait indirectes, inattendues. C'est-à-dire que le Japon, en envahissant le reste de l'Asie à partir de 1941, déclenche en quelque sorte un mouvement qui lui échappe complètement, qui est le mouvement des indépendances nationales, c'est-à-dire que les Malaisiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Philippins s'aperçoivent que les Blancs peuvent être vaincus. Et donc du coup, ça va déclencher des phénomènes, des luttes d'indépendance nationale qui vont caractériser l'après-guerre, en Asie en tout cas, et qui vont contribuer à déclencher le phénomène de la décolonisation. Donc d'une certaine façon, les Japonais ont en quelque sorte perturbé le jeu en Extrême-Orient, et je vous rappelle que les phénomènes de décolonisation ont commencé en Asie bien avant le reste du monde. Donc le Japon a joué un rôle assez pervers dans tout ça, c'est-à-dire qu'il a à la fois été bien sûr une puissance impérialiste, colonisatrice, mais en même temps il a déclenché des mouvements qui lui ont échappé, et d'une certaine façon, Ça s'est pas fait sans catastrophe, hein, bien entendu. Ça a coûté cher, tout ça. Mais, d'une certaine façon, le Japon est un peu l'initiateur de ce qui va devenir plus tard la décolonisation.
Et aujourd'hui encore, vous le disiez, le Japon a affaire avec son passé colonial.
Alors, le Japon a affaire avec son passé colonial parce que, comment dire?
C'est compliqué, ça, encore, en quelques mots.
Oui, et puis leur fil.
c'est parce que, si vous voulez, le problème du Japon, c'est que le Japon n'a pas véritablement changé de nature entre les années 30, les années 40 et les années 50, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que l'État japonais, c'est le même. Celui qui est le Japon impérial, le Japon défait par les Américains, puis le Japon qui se reconstitue dans les années 50-60, c'est le même État, c'est la même administration, c'est la même bureaucratie, les carrières n'ont pas été brisées, ce sont les mêmes personnes qui sont aux commandes. Et d'une certaine façon, ça crée une sorte de continuité, si vous voulez, entre l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre, qui évidemment et qui a été favorisée ou en tout cas légitimée par l'occupation américaine. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas fait leur travail, le travail qu'ils auraient dû faire si dans un monde idéal. Il faut imaginer que la plupart des dirigeants politiques japonais des années 50 sont des gens qui étaient aux commandes politiques dans le Japon des années 30. On imagine mal les ministres de Hitler devenant chanceliers de l'Allemagne fédérale. C'est ça le problème. Et c'est ce qui se passe au Japon. Avec la complicité des Américains qui, entre-temps, sont obnubilés par le fait que le Japon tombe dans le camp communiste. Donc les conséquences de la guerre froide, de ce point de vue-là, ont été rudes. Et le premier ministre Abe Shinzo actuellement est le petit-fils de Kishinobusuke, qui lui-même fut premier ministre entre 1957 et 1960, avec la bénédiction des Américains, mais qui était lui-même un ancien criminel de guerre, qui était en particulier responsable de l'exploitation de la Mandchourie dans les années 38, mais vers 39, 40, 41. Donc c'est, on voit des continuités absolument stupéfiantes.
Pierre Souiri, lundi, dans Babylone, nous allons évoquer ces images du Japon contemporain. Mais je vous remercie d'avoir évoqué avec nous cette histoire du Japon médiéval que vous signez et qui paraît en poche aux éditions Tempus, ainsi que Japon colonial 1880-1930, histoire, les voies de la dissension, c'est sous votre direction et c'est publié aux éditions Les Belles Lettres.
Il y a aussi bien sûr Imagine Japan au musée d'ethnographie de Neuchâtel, ça commence le 20 juin jusqu'au 19 avril 2015. Un autre rendez-vous
à la rencontre du Japon avec Olivier Deloume, photographe, Michel Butor et Jacques Boesch, auteur que vous pourrez retrouver ce samedi 14 juin à 19h au château de Lucinge. Pierre Souiri, c'était court, mais je vous remercie. C'est allé vite, hein,
à oui,
la fin, surtout à la fin.
Surtout à la fin, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on commence à parler.
Merci beaucoup.
Je vous ai un peu perturbé, là, parce que vous vouliez parler plutôt du Japon autrefois.
Non, c'est parfait. Je vous remercie et je désannonce les personnes qui ont contribué à cette émission. C'est Jean-Philippe Svalen qui signait la réalisation. Nicole Corpato est notre assistante de production. Anne Marchand était au studio de Genève où vous étiez en duplex, Cécile Guérin et Nancy Psilantis. Donc lundi, autre rendez-vous Japon. Demain, nous allons parler des adolescents et de la toile et du web, addiction ou pas, plus ou moins intelligent lorsqu'on tapote sur un clavier. Pour l'instant, sur le clavier, il est bientôt 10h. Vous écoutez Espace 2, merci.